Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h, le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2
sur Canal Sud.
92.2.
Dans le cadre d'un cycle sur la littérature prolétarienne, organisé notamment par le kiosque à la Chapelle, Philippe Bouquet, traducteur de Stig Dangerman et d'autres auteurs prolétariens suédois, présentait son travail.
Bonsoir à tout le monde. Je suis bien heureux d'être ici ce soir. Pourtant, ce n'est pas la première fois que je parle dans une chapelle, puisque je l'ai fait il n'y a pas longtemps à l'IMEC de Caen, et qui est maintenant dans l'ancienne abbaye d'Ardennes. C'est un lieu magnifique qui a été converti en institut de la mémoire de l'édition contemporaine. Donc, c'est la deuxième fois de ma vie que je parle dans une chapelle. Voilà comme quoi la vie vous amène à faire des choses très inattendues. Alors, je suis chargé de vous parler de tout, quoi. De tout sur la littérature suédoise et sur Stig Dangerman et sur les autres. Alors, inutile de dire que c'est mission impossible, donc je ne le ferai pas. Par contre, je vais essayer de vous fixer quelques petits repères pour vous aider à vous familiariser avec ce monde qui est le mien depuis pas mal de dizaines d'années maintenant. On ne compte pas avec les amis. La Suède, bon. La Suède, c'est un pays jeune, un pays qui a été constitué relativement tardivement, au XVIe et XVIIe siècle, avec Gustave Vasa et Gustave II Adolphe. C'est un pays qui a aussi longtemps été en arrière, en retard, sur tous les autres pays européens. Jusqu'à la guerre de 14, on peut dire que la Suède était un pays arriéré en Europe. Elle s'est bien rattrapée depuis. Elle a bien changé, au point d'avoir été en pointe d'une certaine évolution, et d'avoir maintenant entamé sa période de régression, comme tous les êtres humains. Cette Suède a été longtemps un pays purement agricole, avec une population rurale, et elle a fait sa mutation industrielle relativement tardivement, comme le reste. Ce qui fait qu'elle a été, elle a pu s'équiper de façon relativement moderne, se constituer une industrie moderne, alors que d'autres pays, comme l'Angleterre, la France éventuellement, s'industrialisant plus tôt, ont traîné des structures industrielles et autres beaucoup plus anciennes et donc vite archaïques, etc. La Suède a été propulsée en pointe assez rapidement avec des produits, des fabrications et des ressources de pointe. Vous savez que le bois et le fer sont les deux principaux produits qui ont alimenté l'industrie suédoise et qui lui ont permis, en plus d'un tempérament national portant vers une sorte d'excellence, plutôt que de disperser ses talents, ses ressources, ses possibilités, les Suédois ont choisi de miser sur des produits de pointe pour être compétitifs, pour atteindre un haut niveau. La qualité suédoise, ce n'est pas simplement un slogan, c'est une réalité, croyez-moi. Alors, ce pays donc est resté longtemps en arrière du reste des pays européens avec un développement retardé. J'entends par là que jusqu'à la Première Guerre mondiale, donc, le pays était arriéré sur tous les plans politiques, sociaux, culturels et autres. Et donc, les choses ont changé à partir de la Première Guerre mondiale qui a vraiment marqué une rupture dans le temps. Et elle a marqué en même temps, d'ailleurs, un phénomène dont la Suède a été un des plus victimes en Europe, c'est-à-dire l'émigration. Je dis bien émigration. Parce que maintenant, le problème suédois, ce serait plutôt l'immigration. Donc, émigration, la Suède a vu 1 million de ses enfants partir en Amérique, du nord principalement, un petit peu du sud, etc. Mais 1 million de Suédois. Le chiffre vous paraît peut-être un peu anodin, mais il faut comprendre que ça représentait un quart de la population suédoise de l'époque. Si vous rapportez ça à la France, si vous rapportez aux 60 et quelques millions, vous voyez que ça ferait 15 millions de Français qui seraient partis vivre en Amérique. Ça se saurait, n'est-ce pas, hein? Et ça aurait laissé des traces et des vides. Donc, la Suède était en voie de dépopulation. Il n'y a qu'un seul pays qui l'a subi le phénomène de façon plus forte, c'est l'Irlande qui s'est vidée de la moitié de sa population. Mais après, c'est la Suède et aussi la Norvège. Donc ces deux pays qui étaient en train d'être pompés de leur sang, de leur énergie vitale, ont été en quelque sorte sauvés par la Première Guerre mondiale. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Qui, en coupant les communications, a coupé l'émigration. Et les Suédois se sont mis en tête, à ce moment-là, de faire quelque chose. Et ils ont fait un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, ils ont entrepris une série de réformes politico-sociales qui ont amené le pays à progresser de façon assez rapide au début et même très rapide à la fin. Ce qui fait qu'entre 1910 et 1960, il n'y a pas de commune mesure en Suède. C'est deux pays complètement différents. Alors je sais que le grand bond en avant, c'est la Chine, traditionnellement, du moins le dit-on. Mais moi, j'ai ma petite idée. Je pense que c'est la Suède et les autres pays scandinaves aussi qui ont réalisé en fait ce grand bond en avant, qui sont passés d'une société un petit peu de servilité à une société de citoyenneté. Et au risque de vous surprendre, je vais vous dire qu'il a subsisté en Suède une catégorie sociale qu'on a appelée les Startare, qui représentait un sous-prolétariat agricole quasiment à l'état de servage, je dis bien de servage, et ceci jusqu'en 1945. Vous avez bien entendu, 45. Vous vous rendez compte de ce que ça représente. Vous vous rendez compte aussi de l'état culturellement retardé que ça représente. Parce qu'on ne peut pas être serf, n'est-ce pas, et cultivé et instruit. Donc, dans cet espace de temps, la Suède a accompli une véritable transition, dont la littérature a été un des reflets. Alors, je passe maintenant sur ce bref survol des données de base au côté littéraire. La Suède a aussi été très longtemps en retard sur le plan littéraire et culturel et artistique. Qu'est-ce qui se passait? C'est que les mouvements culturels européens, alors Renaissance, baroque, classicisme, réalisme, naturalisme, etc., tous les ismes que vous pouvez, auxquels vous pouvez penser, sont arrivés en Scandinavie avec le retard dû à la distance. Donc, pendant longtemps, les pays scandinaves ont été un peu les épigones de l'Allemagne, l'Angleterre, la France, l'Italie, etc. Et on ne peut pas dire que, à part quelques exceptions, en Suède, je pense en particulier à Bellman, en haut Danemark, il y a Andersen, il y a Kierkegaard, excusez-moi, en Norvège, il y a Ibsen, etc. Mais on ne peut pas dire qu'à part quelques grandes exceptions, il y ait eu jusqu'à cette époque de grands mouvements littéraires surtout. Les choses ont commencé à changer avec Strindberg. Alors Strindberg est né au milieu du 19e siècle et mort en 1912, pour vous situer un petit peu. Et à partir de Strindberg, il y a un avant et un après Strindberg dans les lettres suédoises. C'est clair, c'est net. Il n'y a personne qui contestera, surtout les écrivains actuels, tous disons, il y a eu Strindberg, on est les héritiers, un petit peu lointains, mais on est les héritiers de Strindberg. Pourquoi? Parce que Strindberg, c'est quelque chose dont on a du mal à mesurer l'importance en France. Bon, on a des grands écrivains, je pense à le problème. On a Hugo, on a Balzac, on a Zola. Mais on a personne comme Strindberg qui était un tel... Alors les Suédois l'appellent le titan. C'est pas pour rien. Parce qu'il a tout porté à un degré extrême. Il était possédé, lui-même disait qu'il était possédé du feu le plus grand qui soit au monde. Alors le feu intérieur, le feu culturel, littéraire et tout. Et toute modestie de sa part, mise à part, je crois que c'était assez vrai. Il a porté à son extrême tout un tas de choses. Strindberg était l'être le plus contradictoire qu'on puisse imaginer. C'était la contradiction faite homme. Absolument. Vous ne pouvez rien trouver que Strindberg soit à la fois un des côtés et l'autre. Et le cas le plus manifeste, c'est la religion. Strindberg a commencé comme athée et comme enfant un peu dénaturé d'un pays dans lequel la religion était religion d'État, donc obligatoire. Hein. Pour finir, bigot. Et en même temps, en odeur de santé socialiste. Allez y comprendre quelque chose. Ça vous dépasse. Moi, ça me dépasse aussi un petit peu. J'ai une collègue qui a bien expliqué ça. Elle a écrit un livre dans lequel elle illustre, à l'aide de citations, d'exemples choisis, que Strindberg était athée et croyant, même dévot, exactement pour les mêmes raisons. Ça vous donne un petit peu une idée de la complexité du personnage. Ce personnage était en même temps progressiste et réactionnaire. Il était en même temps misogyne et admirateur de la femme. Il était tout et le contraire de tout. Et le pire, c'est que c'était en même temps. Allez y comprendre quelque chose. Ça dépasse pas mal l'entendement, mais c'est ainsi. Et vous comprendrez peut-être que cet homme a vite acquis une stature hors du commun dans son propre pays. À tel point, d'ailleurs, qu'il a été obligé de s'exiler. Que s'il est devenu grand, c'est une fois qu'il a été célébré par l'Allemagne, il a pas mal séjourné à Berlin, par la France, il a pas mal séjourné en France aussi, et il a écrit en français, et il a ambitionné de devenir écrivain français. Il a été donc porté au nu par l'étranger. Et c'est comme ça que les Suédois ont fini par se dire « Ah oui, ce petit Strindberg, quand même, après tout, c'est peut-être quelqu'un, etc. » Et il a fini en odeur de santé. Pour un être qui était né pour être honni, il a eu l'honneur d'un défilé au flambeau dans les rues de la capitale de Stockholm peu avant sa mort. D'ailleurs, je crois que ça l'a tué, parce que quand on est fait pour être honni, puis qu'on défile au flambeau en votre honneur, il y a quelque chose qui se passe là. Donc, Strindberg, eh bien, c'est hors du commun, et Strindberg a fait sortir vraiment la Suède du provincialisme littéraire. Après Strindberg, il a même bouleversé la langue. Il y a une langue suédoise après Strindberg qui n'était pas celle d'avant. La conception de la littérature, de la poésie, il a tout bouleversé. Du théâtre. Strindberg a créé le théâtre moderne pour 50 ans après sa mort. Donc, il a tout renouvelé, tout balayé, et fait passer un immense courant d'air. Et croyez-moi, ça s'est ressenti. Parce que après Strindberg, la littérature suédoise, là je parle plus spécifiquement de la Suède, a été bouleversée complètement. Et s'est mis à inventer des formes, des types d'écrivains, des formes littéraires qui n'avaient pas cours ailleurs. Il suffisait d'y penser. Après Strindberg, il y a eu par exemple Selma Lagerlöf, qui est quand même un peu connue dans le monde, hein, alors qu'aucune femme suédoise... Auparavant, on avait. Vous vous rendez compte, c'est la première femme à avoir obtenu le prix Nobel de littérature. Hein, c'est quand même pas rien. Et qui, avec son fameux Nils Holgersson, a pu conquérir pas mal d'univers scolaires. Après Strindberg, il y a eu aussi les flâneurs du type Hjalmar Söderberg, qui était une sorte d'Anatole France suédois, mais avec une spécificité. Un homme à la fois d'un parfait scepticisme et un homme qui s'est engagé contre le nazisme avec une violence qu'on n'aurait pas cru. D'ailleurs, il a dit lui-même, n'est-ce pas, Ce bon bourgeois, car Dieu sait que c'était un bon bourgeois, bien tranquille, bien peinard, il a attaqué Hitler. Le jour où Hitler a été nommé à la chancellerie du Reich, il l'a traité de canaille dans les journaux suédois. Et croyez-moi que pour dire ça dans un journal suédois, il faut avoir un petit peu de cran, surtout à l'époque. Et il a dit lui-même qu'Hitler avait prolongé sa vie de 10 ans tellement il l'avait haï et éprouvait le besoin de le combattre. C'est quand même pas mal hein, pour un bon bourgeois pas prédestiné à la bagarre. Il y a eu aussi le roman prolétarien, puisque à la faveur de ce bouleversement social, eh bien, est apparue une catégorie littéraire un peu ignorée à l'étranger, à savoir que des hommes du peuple, des ouvriers, et aussi pas mal des ouvriers de la terre, c'est-à-dire des paysans, ou des ouvriers de la mer, c'est-à-dire des marins, qui se sont aperçus, en définitive, qu'ils avaient des choses à dire, qu'ils pouvaient écrire, et que ça pouvait intéresser certains êtres humains de leurs concitoyens. Et ils ont créé, de toutes pièces, un type de littérature inconnu jusque-là, et même qui restait encore passablement inconnu depuis ailleurs, en d'autres lieux, hélas. Et puis, il y a eu un Gunnar Ekelöf. Gunnar Ekelöf, c'est une école littéraire à lui tout seul. Il a tout digéré de l'art poétique du monde entier, occidental et même oriental, et il en a fait une œuvre personnelle. Inutile de vous dire que ce n'est pas de la tarte de les traduire, hein, mais on sait comme ça. Les grands écrivains, c'est comme ça. Et puis, il y a eu Harry Martinson, par exemple, hein, qui est un vagabond de l'univers, du cosmos, qui est un homme absolument extraordinaire, qui a lui-même commencé comme autodidacte et qui a acquis une culture qui a fait de lui à la fois un poète et un savant en même temps, qui est capable de vous décrire avec autant de splendeur une touffe d'herbe et ce qui se passe dans une touffe d'herbe. Et il pense pas mal de choses si on y regarde attentivement, et ce qui se passe dans le cosmos. À ma connaissance, il n'y a pas grand monde qui a pu faire ça et un tel niveau. Et puis, il y a eu Stieg Dagerman, qui est apparu comme un météore après la guerre, et donc je passe brièvement, puis que je vais y revenir. Et puis après, il y a eu l'école du rapport, une catégorie suédoise qui s'est mise à écrire des rapports. Ben oui, un rapport. Rapport sur ceci, rapport sur cela, et qui ont réussi à en faire de la littérature. Et voilà, et puis on aboutit maintenant au polar suédois. Ah, le polar suédois qui fait des ravages, hein, parce que là, c'est une vague, c'est un tsunami qui s'abat sur la France en particulier, mais pas seulement. Vous vous rendez compte de ce que ça représente quand même pour un pays qui était une petite bourgade littéraire avant Strindberg. Alors vous comprenez aussi peut-être qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire pour un traducteur, par exemple. Et quand on a la chance de posséder la langue suédoise, eh bien, on s'est dit, au fond, on pourrait traduire certaines de ses œuvres. Ça, c'est pas aussi facile que ça en a l'air, mais ça mérite qu'on s'y attache. Et quand, comme moi, on a eu la chance que parmi les premiers textes, je dis bien les tout premiers textes suédois qu'on a été capable de lire dans le texte et d'apprécier, figure un texte intitulé « Tuer un enfant » d'un certain Stieg Dagerman. Ça a des conséquences, figurez-vous. Ça se retrouve par la suite dans la vie. Et c'est ce qui m'est arrivé, donc, et depuis... Je ne crois plus au hasard, n'est-ce pas? Si j'avais tendance à le croire avant, non. Parce que ce Stieg Dagerman, ben je l'ai vite retrouvé par la suite. J'ai eu la chance, non pas de le connaître, je ne l'ai jamais rencontré. Il était mort avant que je commence à moi-même m'intéresser à la langue suédoise. Mais par contre, j'ai rencontré ses femmes, sa première, la deuxième. J'ai rencontré ses enfants, pas ses petits-enfants, mais enfin, vous voyez que... Depuis, il s'est passé pas mal de choses. Et que j'ai eu l'occasion de constater qu'il y avait des trous dans notre connaissance de Stieg Dagerman, que je me suis un petit peu employé à boucher. Stieg Dagerman, avant que je m'en avise, était un peu connu comme romancier. Il faut dire que son œuvre n'est pas considérable. 4 romans, c'est pas énorme, 1 recueil de nouvelles, 4 pièces de théâtre, 1 pièce pour la radio... Et puis, des broutilles. Ces broutilles, c'est du journalisme. Car Stieg Dagerman a été quelqu'un qui a eu la chance de faire rimer littérature et journalisme. Mais journalisme de haut niveau, hein, quand même. Un journalisme à la fois de reportage, mais journalisme aussi d'opinion, et journaliste qui n'avait surtout pas peur de dire ce qu'il pensait, et ce qui est quand même assez utile, je crois, dans une société. Donc, Dagerman, excuse-moi, qui n'a pas vécu bien longtemps, né en 1923, il est mort en 54, calculez vous-même, 31 ans. Pour faire une œuvre littéraire, c'est pas beaucoup. Mais d'une part, il a commencé jeune, à l'âge de 18 ans, et d'autre part, s'il est mort à 31 ans, c'est qu'il l'a bien voulu, c'est qu'il a fait tout pour ça, puisqu'il a pratiqué comme nul autre l'art du suicide. Il a lui-même dit que le suicide était la seule chose qui fait, et qui était la preuve de la liberté de l'homme. Et à la différence de certains autres, je pense en particulier à Goethe, qui a fait suicider un certain Werther, n'est-ce pas, lequel Goethe a par la suite fait une magnifique carrière littéraire, mondaine, diplomatique et tout. Ça, là, impeccable. En laissant derrière lui une vague de suicide, paraît-il, à l'époque. Dagerman n'a pas créé de vague de suicide, par contre, il s'est beaucoup suicidé lui-même, à petit feu, moult fois, avec obstination et beaucoup de constance et de persévérance. Il a fini par se rattraper lui-même. C'était un peu fatal, je crois. Mais il faut voir donc cette vie en forme un petit peu de météore, et surtout de météore littéraire. Dagerman a percé dès l'âge de 18 ans dans les rangs de l'anarcho-syndicalisme. Car on ne peut pas, à mon avis, traiter de Dagerman en gommant cet aspect de sa personnalité qui n'était pas tellement mis en évidence au début de notre connaissance de son œuvre en France, parce qu'on a surtout, on a commencé par ses romans où, même si l'anarchisme est présent, ça n'est pas forcément ce qui saute le plus aux yeux. Par contre, dès qu'on creuse par ailleurs dans son œuvre, qu'on prend connaissance de toute son activité journalistique en particulier, alors là, ça devient évident. Il s'est donc, dès 18 ans, engagé dans les rangs de l'anarcho-syndicalisme, et il a fait ses premières armes dans une publication lycéenne à tendance anarcho-syndicaliste. Il faut dire qu'il était pas mal placé, puisque son père lui-même était dans cette même tendance et a pu lui servir peut-être de guide. De guide en même temps que de repoussoir, j'y reviendrai. Autre circonstance fondamentale dans la vie, la carrière de Dagerman, c'est la mère. Car il faut savoir que Dagerman a été abandonné à l'âge de 15 ans par sa mère. Sa mère est venue accoucher de lui, donc chez ceux qui n'étaient pas vraiment ses beaux-parents, puisqu'ils n'étaient pas mariés, mais disons les parents du père. Et puis au bout de 15 jours, elle a pris ses clics et ses claques, elle est partie, elle n'est jamais revenue. Elle n'a jamais redonné signe de vie à son fils. Elle l'a revu une fois par la suite, à la suite d'une demande de son fils. C'est son fils qui l'a recherché, c'est son fils qui l'a retrouvé, mais ça n'a rien donné, elle ne s'intéressait pas. Le pire d'ailleurs, j'ose dire, c'est qu'elle a réédité la même expérience avec un autre enfant, un autre père. Bon, père c'est cendre, je ne suis pas là pour la juger. Mais on ne peut pas comprendre Dagerman si on ne sait pas ça. Et on ne peut pas non plus comprendre que la figure de la mère soit aussi maltraitée dans les œuvres de Dagerman. Car ça a commencé dès le début et ça a continué pratiquement jusqu'à la fin. La mère, c'est une plaie dans la vie de Dagerman. Et peut-être, je ne suis pas psychanalyste, une explication de cette tendance tellement suicidaire. Bref, ce jeune Dagerman a fait figure rapidement d'enfant prodige. C'était pas un surdoué, mais c'était un être d'une telle intensité. Je crois que ce qui le caractérise, c'est l'intensité. L'intensité de son engagement, alors politico-littéraire. Parce que pour lui, la littérature, c'était rien si c'était pas libertaire. La littérature, c'était le véhicule d'une pensée et surtout peut-être d'un mode de vie libertaire. Car quand je dis que Dagerman était anarchiste, je vais compléter en disant que Dagerman a été peut-être moins anarchiste dans son propos, dans ce qu'il prêchait, si vous voulez, que dans sa vie. Dagerman, il a essayé de vivre l'anarchisme. Et alors ça, c'est pas commode. Si vous pensez aux grands théoriciens ou prédicateurs de l'anarchisme, que ce soit Bakounine et les autres, au fond, ils ont bien vécu en bourgeois. Faut le dire quand même. Dagerman, lui, il a essayé de vivre l'anarchisme, de le vivre dans sa vie, c'est-à-dire d'être un être libre dans toutes ses démarches, et dans tout ce qu'il pensait, dans tout ce qu'il pouvait entreprendre. Et je pense que ça l'a fait vivre un certain temps, mais ça l'a aussi achevé. Je pense que ça aussi est une des causes de son suicide prématuré, mais qu'est-ce que... Parce que les anarchistes, à mon avis, ont été les grandes victimes de cette période. Les anarchistes étaient les victimes toutes désignées des deux grands impérialismes de l'époque. Nous sommes dans les années 40-50, n'est-ce pas, hein? C'est-à-dire le nazisme d'une part, le communisme d'autre part. Ni l'un ni l'autre ne les aurait tolérés. Si la Suède avait été envahie par les nazis, Heureusement, entre autres facteurs, il y avait le minerai de fer, et puis il y avait aussi le fait que la première femme de Göring était suédoise. On l'ignore souvent, mais je suis pour ma part certain, car il était très attaché, et que je suis certain que Göring a plaidé auprès d'Hitler pour que la Suède reste neutre et non envahie, hein, à la différence du Danemark et de la Norvège, par exemple. Donc, enfin bref, ça c'est une supposition personnelle. Donc, si d'une part les nazis ou d'autre part les communistes avaient envahi la Suède, Dagerman aurait été au premier rang des pelotons d'exécution, ça ne fait aucun doute. Il a donc... Les anarchistes ont été les grandes victimes de cette époque. N'oubliez pas que la révolte de Kronstadt, par exemple, a été réprimée par Trotsky et le pouvoir soviétique, hein. Les anarchistes ont été battus, ont été honnis pratiquement de tout le monde. Et je crois que Dagerman a fini par se rendre compte de ce que son anarchisme était comme moi. Un peu invivable, un peu irréalisable, qu'il était trop pur, trop grand, trop noble, embrassait trop de choses pour être véritablement réalisé. Que c'est une des choses qui l'a poussé à mettre fin à ses jours. D'ailleurs, il y a un texte là-dessus qui est assez évocateur, c'est ce petit fascicule qui s'appelle « Notre besoin de consolation », qui est simplement un article que Dagerman a fait paraître dans une revue féminine, et c'était même pas le haut niveau de la revue culturelle. J'assimile ça à peu près à Modes et Travaux, si vous voulez, hein, entre les recettes de cuisine, les modèles de tricot et les soins aux enfants. Eh ben, cette revue avait confié à Dagerman, avait demandé à Dagerman d'écrire un texte sur le sens de la vie. Le sens de la vie. C'est pas seulement de torcher les baumes. Et je crois qu'il y a certaines lectrices qui ont peut-être été un peu dépassées par le niveau intellectuel, parce que ce texte est un texte magnifique. C'est un poème en prose philosophique. Bon, voyez, excusez du peu. Eh bien, si on, quand on lit ce texte où Dagerman dit qu'il ne veut plus utiliser son nom de peur de lui nuire, il n'y en a pas beaucoup qui ont dit ça dans le monde. Et d'autre part, quand on sent que son anarchisme se crispe, quand il dit qu'il est fier d'être lui, qu'il n'y a que lui qui peut être lui, ça évoque bigrement Stirner et l'anarchisme de droite, qu'il faut bien qualifier de droite, hein, eh bien, on sent que là, il s'est produit quelque chose et que Dagerman est au bout du rouleau. Et donc, ça s'est confirmé par la suite. J'ajoute que circonstance ultime, Dagerman, qui avait épousé en première noces une réfugiée allemande, une personne dont la famille fuyait le nazisme, elle l'avait d'abord fui en Espagne. Mauvaise pioche quand même, dans les années 30. Ça tombait mal. Puis quand ça s'est gratté aussi là en Espagne, elle l'a fui où ça? En Norvège. Mauvaise pioche à nouveau, Hitler y était presque avant eux. Et alors, faute d'autres choses, ben, ils ont traversé la frontière suédoise, sont réfugiés en Suède. C'est ainsi que Anne-Marie est arrivée en Suède à l'âge, je crois, 16 ans, et qu'elle a rencontré Dagerman dans les milieux anarchistes, qu'ils se sont mariés. Il était ni l'un ni l'autre mineur, et ils ont dû demander une dispense royale. Pour qu'un anarchiste demande une dispense royale, il faut quand même... C'est une belle preuve d'amour, je trouve. Hein? Et donc, il s'est marié très jeune, deux enfants. Et puis, à un moment, ben, ça s'est gâté, comme ça arrive dans d'autres couples. Et Dagerman a été, à ce moment-là, happé par le succès littéraire. S'est un peu étourdi dans la vie mondaine et a rencontré une actrice. Une actrice que vous avez peut-être rencontrée, vous, sur l'écran aussi, qui s'appelle Anita Björk. Si certains d'entre vous ont vu le film d'Alf Schoeberg qui s'appelle Mademoiselle Julie, qui est un pur chef-d'œuvre d'ailleurs, eh bien c'est elle. Mademoiselle Julie, c'est elle, cette beauté, parce qu'elle était une beauté absolument sublime, vraiment. En plus, excellente actrice, parlant en suédois, d'une distinction, d'une perfection à tout prix. Ben, il a été séduit, qu'est-ce que vous voulez, il a quitté sa femme, etc. Et il s'est trouvé pris dans une vie mondaine qu'il a dépassée complètement. Il l'a étourdie. En plus, sa femme étant en train de devenir une gloire internationale, et je pèse mes mots puisqu'elle était invitée à Hollywood, ça s'est assez mal passé, en particulier parce que Dagerman était dans les bagages, figurez-vous, et comme ils n'étaient pas mariés, Pas de ça chez nous. À l'hôtel, ils étaient obligés d'avoir des chambres séparées, bien sûr, et il ne fallait pas surtout que monsieur paraisse. Hein. Donc, Dagerman était le petit bébé, là, hein, qui avait à peine le droit à l'existence. Alors ça, quand même, ça en fiche un coup dans l'ego masculin, à moi. Bon, donc, il s'est trouvé relégué au deuxième plan, et ça n'a pu qu'accroître son mal de vivre. Et il y a mis fin de la façon que j'ai dite. Petit détail, Dagerman a réussi à se tuer avec sa voiture. Il s'est enfermé dans son garage, il a mis le moteur à marcher, et une première fois, il a réussi à l'éteindre, à temps. C'est-à-dire qu'il en est sorti. Il en est sorti vivant, mais empoisonné. Il avait déjà inhalé assez de gaz toxique pour être, excusez-moi, une sorte de mort en sursis. Une sorte de mort vivant, en quelque sorte. Il se savait condamné. Et pour quelqu'un comme Dagerman, qui aimait voir les choses en filigrane, c'est assez manifeste à la lecture de son œuvre, il aimait voir en même temps l'avers et l'envers d'une chose. En filigrane, donc. Et là, je crois que ça a dû être une période, en fait, d'une intense jouissivité dans sa vie. Je pense qu'il en a profité pleinement. La meilleure preuve, c'est qu'il a recommencé. Et cette fois, il ne s'est pas loupé, c'est-à-dire qu'il a réussi. Et on l'a retrouvé le lendemain ou le surlendemain dans son garage. Voilà. La brève existence de Dagerman, voilà cette comète, je l'ai un peu comparé à un Rimbaud du Nord, parce qu'il a toute sa production littéraire est consacrée en 5 ans. En 5 ans, vous imaginez. Puis après 5 ans, se suicider. Curieuse vie, n'est-ce pas? On ne peut pas l'imaginer soi-même. Et au détour, eh bien, 4 romans. Le premier, Le Serpent, une sorte de brouillon génial. Un brouillon, ça part dans tous les sens. C'est pas maîtrisé, c'est anarchique au plein sens du terme. Et on peut à peine dire de quoi il s'agit, si ce n'est que c'est une sorte de de rhapsodie sur le thème de la peur et de l'angoisse, qui sont matérialisés par ce serpent qui apparaît là, qui disparaît. C'est une suite d'épisodes fort décousus, qui se termine seulement de façon très symptomatique par une marche suicidaire sur la corniche d'un hôtel. Dagerman s'invente une sorte d'alter ego qui se promène en équilibre sur la corniche d'un hôtel où il a à peine la place de mettre les pieds. Vous voyez que ça trottait déjà dans sa tête à ce moment-là. Ensuite est venue l'île des condamnés. Alors ça, c'est quelque chose. J'avoue que la première fois que j'ai lu l'île des condamnés, j'en suis sorti sonné. Mais sonné comme par un coup de poing. Sonné parce que ce livre est au-delà de tout. Il n'y a rien de tel dans la littérature, du moins à ma connaissance. Et c'est tellement inclassable, tellement hors norme, tellement stupéfiant. L'histoire, c'est 7 naufragés qui se retrouvent sur une île. Mais rassurez-vous, c'est pas tellement du Robinson Crusoe, nouvelle version. C'est un drame totalement existentiel, parce que ces 7 personnes sont condamnées non seulement par les circonstances extérieures, puisqu'ils n'ont pas de ravitaillement, et il y en a même un qui fait le nécessaire en vidant la réserve commune d'eau. Donc il est condamné à mort, n'est-ce pas ? Mais ils sont condamnés en eux-mêmes parce qu'ils sont incapables de vivre. C'est 7 personnes incapables de vivre qui se retrouvent là. Et tout ça, ça débouche sur quoi ? Je vous le donne en 1000, sur quelque chose qui s'appelle le combat pour le lion. Et ce combat pour le lion, ça consiste à savoir si le lion que les 2 derniers survivants vont graver sur un rocher va être un lion solitaire ou un lion solidaire. Avouez que ça sort un petit peu du commun. Avouez que ce n'est pas tout à fait le roman de Gare, ni de quoi que ce soit, hein, ni le roman qui postule au prix Goncourt. Et donc, ce livre, vraiment, je crois que personne, à première lecture, ne peut en mesurer véritablement la portée, la signification, l'explication. Il y a pas mal de gens qui ont essayé de trouver une clé, si vous voulez, quelque chose de commun qui pourrait expliquer un petit peu cette fantasmagorie. Personne n'a trouvé de réponse valable. C'est totalement sorti d'un imaginaire débridé. Ça a été écrit en un temps très bref. Toute la fin, il l'écrit en 15 jours, on le sait. En 15 jours, vous vous rendez compte ? C'est absolument stupéfiant. Et à mon avis, c'est un des grands, et je le dis bien, des grands livres du XXe siècle. Un petit peu trop grand, parce qu'il a dépassé beaucoup le niveau de réception du lecteur moyen, peut-être, mais vraiment quelque chose de stupéfiant. Et alors que tous les autres livres, les autres romans de Dagerman ont été filmés, celui-ci ne l'a pas été. Et je sais bien pourquoi, c'est parce que c'est impossible. C'est impossible à filmer. Le film, il est dans le livre. Dagerman a fait 7 films qu'il a mis par écrit. Donc, car il n'y a pas de livre plus cinématographique que celui-là. J'espère vous donner. Mais je vous préviens. Alors, il y a 2 moyens d'aborder Dagerman. Il y a la pente douce, peut-être le serpent, etc. Puis il y a la manière rude, c'est de commencer par l'île des condamnés. Alors là, si vous en sortez vivant et convaincu, ben vous avez franchi l'obstacle, le reste sera facile. Mais ça vaut la peine d'essayer, de voir ce que c'est que cette œuvre. N'hésitez pas à la lire 2 fois ou 3 fois. Elle existe en français, Dieu merci, bien traduite. Je ne suis pas coupable sur ce plan-là. Et donc, après, un troisième roman. Alors, L'île des condamnés, ça a commencé à faire parler de lui. Vraiment. Là, les critiques suédois, sont quand même, ils avaient vu que le serpent était bizarre, un livre étonnant qui sortait de l'ordinaire, mais avec L'île des condamnés, ils ont compris que c'était du lourd, comme on dit. Juste après, un intermède non-fiction, c'est-à-dire que Dagerman est allé faire un reportage en Allemagne. Quand ? En 1946. Oh, une drôle de période pour faire du tourisme, et drôle de pays, surtout, pour faire du tourisme. Voir des ruines, oui, bon pays, d'accord, mais Berlin... Eh bien, voilà, c'est Dagerman. Il a de lui-même choisi d'aller en Allemagne en 1946 et d'aller voir ce qu'il en était là-bas, de se rendre compte par lui-même et d'en rapporter ce livre qui s'appelle « Automne allemand », qui, lui, est très lisible, qui raconte son expérience, qui raconte son refus de la notion de culpabilité collective, parce qu'il refuse de considérer les Allemands comme tous nazis, même s'il est bien conscient et il en rend compte qu'il y en a qui le sont et qui le sont encore, qui le seront peut-être toujours. Et je rappelle qu'il avait épousé une Allemande fuyant le nazisme, donc ce n'était pas de la sympathie intellectuelle. Hein. Et ce livre en particulier se termine par un chapitre que moi je trouve absolument merveilleux qui s'appelle « Littérature et souffrance », où il examine les rapports entre la littérature et la souffrance. Et il en tire cette conclusion qui est bien dans son optique. C'est-à-dire que où la souffrance est réelle, véritable, et elle est incommunicable, où elle est jouée, on peut jouer la souffrance comme tout le reste, hein, et alors elle est communicable, justement. Voilà. Donc si on vous communique une souffrance, bah, méfiez-vous, il est probable qu'elle est jouée. Donc ça, c'est du Dagerman tout craché. Dagerman avait une pensée fondamentalement paradoxale. Il nageait dans le paradoxe. C'est lui qui a dit qu'il aimait avoir le suicide à côté de lui pour plus de sûreté ou de sécurité. Hein, c'est pas du paradoxe. Donc, ce reportage-là alors, vraiment a fait de lui, parce qu'il était publié rapidement en livre, d'une série commandée par un journal, mais c'était publié en livre, et alors là, sa stature a été définitivement acquise. Après ça, il a tenté de rééditer la manœuvre avec la France. Il a demandé à venir en France, et un journal l'a envoyé donc, mais alors là, ça a été l'échec. Pourquoi est-ce qu'il avait réussi si brillamment en Allemagne, il n'a pas réussi en France? J'ai ma petite idée, à savoir que la France était beaucoup, même si, je l'ai vécu quand même, hein, c'était pas le Pérou, c'était pas le magnifique, mais la France ne donnait pas le même spectacle de désolation que l'Allemagne. La France n'était pas au niveau tragique de cette Allemagne complètement en ruine, où les gens vivaient dans des caves avec une pomme de terre par jour pour vivre. Bon. Donc, il s'est trouvé bien moins bien à l'aise. Il n'a pas beaucoup aimé les Français qu'il a qualifiés de Suédois du Sud, dont son idée, ce n'était pas vraiment un éloge. Et il n'a pas réussi à faire tout le reportage. Il l'a abandonné à mi-chemin. Et ça n'est jamais paru en livre. C'est seulement paru en livre en France, quelques dizaines d'années par la suite. Donc, chapitre curieux. Et au cours de ce reportage, une fois qu'il a eu renoncé à faire ce qu'il était venu faire, il s'est lancé dans un autre roman. Qui s'appelle « L'enfant brûlé » et qui est celui qui a eu le plus de succès en France. Quand les gens ne connaissent qu'un livre de Dagerman, c'est « L'enfant brûlé ». Il faut dire que c'est... Moi, c'est celui qui me plaît le moins. C'est celui le plus français. C'est celui qui se présente un peu comme un roman psychologique, une histoire un peu de famille, avec des relations freudiennes, etc., avec du jeu avec soi-même. Ça, c'est fondamental dans ce livre. L'auteur et le personnage jouent avec lui-même, jouent beaucoup. Et donc, pour moi, c'est beaucoup moins significatif que les autres, mais ça a beaucoup plu en France, et c'est celui qui a... établi Dagerman en France véritablement, c'est celui qui a convaincu en particulier Jean-Marie Joseph Le Clésio que Dagerman était un écrivain. Et petite anecdote, vous savez que Le Clésio a obtenu le prix Nobel de littérature, et bien peu avant, quelques semaines avant, il avait été choisi par la société Dagerman pour décerner le prix Dagerman. Avouez qu'il n'y a pas toujours de hasard non plus dans la littérature. Et Le Clésio a écrit un texte absolument étonnant sur Dagerman qui s'intitule « Et Stieg Dagerman », dans lequel il raconte qu'il est en train de lire Dagerman et qu'il est même en train de devenir Dagerman. Je ne connais pas beaucoup de textes où on a un auteur qui est de cette façon en train de devenir un autre auteur. Il se met franchement dans la peau, à la place et dans la peau de Dagerman. Donc voilà pour ce livre. Et puis le quatrième roman s'appelle Ennui de noces. C'est une nouvelle fantasmagorie qui s'en va dans tous les sens. C'est à la campagne. C'est une noce, mais une noce, on ne sait pas trop qui. D'ailleurs, la mariée ne sait pas trop qui elle va épouser. Enfin, c'est assez ahurissant. Ça part un petit peu dans tous les sens. Et bien malin qui peut y retrouver quelques structures bien définies. Dagerman était en plein désarroi quand il a écrit ça. Et c'est sa dernière œuvre marquante. Bon, ça, c'est la fiction. J'ajoute un recueil de nouvelles qui s'appelle « Les Jeux de la nuit », qui est loin d'être inintéressant, qui malheureusement a été désossé complètement pour paraître en français, c'est-à-dire que c'est réparti entre plusieurs volumes, « Les Wagons rouges »,« La nuit de la Saint-Jean », etc. Pour reconstituer ce volume, il faut en piocher dans trois volumes français. Bon, ça, c'est pas de sa faute. Parallèlement, il y a le théâtre, car Dagerman a une œuvre non théâtrale, non négligeable, et en particulier, c'est lui l'inventeur, ou l'un des inventeurs, je veux bien, mais le premier inventeur de ce qu'on a appelé le théâtre dédramatisé, c'est-à-dire le théâtre qui refuse l'intrigue, en quelque sorte. Et si je dis que c'est le premier, vous allez me dire, attention, il y a Ionesco, il y a Beckett. Exact. Mais si vous regardez bien, avant la guerre, Beckett n'avait écrit que de la prose, pas du théâtre. Et si vous regardez bien aussi, Ionesco n'a commencé à publier ses pièces que dans les années 50. Or, dès 47, Dagerman faisait paraître un texte qui figure sous le titre « Théâtre et réalité » dans le volume « Le condamné à mort ». Il avait fait paraître un véritable manifeste qui, à mon avis, est aussi important que la préface de Mademoiselle Julie de Strindberg quant à l'art du théâtre, dans lequel il analyse le théâtre et, en particulier, il parle des moyens autres que le verbe de créer une intrigue, de créer la tension dramatique. Et c'est un texte écrit, on croirait que c'est écrit par un metteur en scène, tellement c'est lucide sur les conditions matérielles d'existence du théâtre. Et la seule chose curieuse, c'est que Dagerman lui-même a très peu mis en pratique ses propres principes. Il avait découvert quelque chose, il a oublié de s'en servir. C'est tellement vrai que Le condamné à mort, ce texte, existe sous deux formes. Il existe sous la forme d'une nouvelle, Le condamné à mort, et d'une pièce de théâtre. Or, si vous lisez les deux, vous verrez que lequel des deux textes est le plus en accord avec les principes de Dagerman sur le théâtre, eh bien, c'est la nouvelle, justement. Car il y a dans la nouvelle, par exemple, l'idée de lèvres de femmes qui s'inscrivent sur le mur de la cellule. Eh bien ça ne figure pas dans la pièce. Vous vous dites, mais c'est une idée formidable, justement, de faire naître la tension dans un théâtre dédramatisé, puisqu'il refuse l'intrigue. Eh bien, il ne s'en sert pas. Et Dagerman ne se sert de ses idées que dans une pièce ultérieure qui s'appelle « L'ombre de Marthe », où il va avoir l'idée de matérialiser l'ombre écrasante de quelqu'un. Mais c'est le seul cas où Dagerman a mis en principe ses principes dramatiques, alors qu'il a écrit quand même quatre pièces, plus une pièce radiophonique qui est un petit peu à part. Donc voilà, curieux bonhomme qui a travaillé pour le théâtre, mais qui n'a pas eu un énorme succès. Par contre, c'était quelqu'un qui a fréquenté les cinémas avec une ardeur. C'était un véritable drogué de cinéma. On peut dire peut-être qu'il voyait son mal de vivre, ça je veux bien, Mais Dagerman allait au cinéma volontiers plusieurs fois par jour. Et c'était un véritable drogué de cinéma. Et si ces récits sont tellement filmiques, en quelque sorte, ça n'est pas un hasard, bien sûr. Donc, il a beaucoup traîné dans les salles obscures, et puis il a beaucoup traîné dans les rédactions de journaux, en particulier la presse anarchiste, puisqu'il a il y a commencé, et il y a terminé. C'est ça qui est curieux. Dagerman, une fois qu'il a interrompu son œuvre littéraire, a continué son œuvre journalistique, et pas des moindres, et en particulier, alors il a fait quelque chose que j'aime beaucoup, et que j'ai essayé de montrer en français, c'est-à-dire une série de poèmes satiriques. Il a fait ça dès le début, et ça a été son tout dernier écrit, puisque le dernier de ses poèmes satiriques est paru le lendemain de sa mort. Il était déjà livré au journal, bien sûr. Et si je dis que c'est intéressant, c'est parce que là, Dagerman tenait une forme que je vais dire anarchique, vraiment. C'est-à-dire une forme qui n'était pas une forme. C'est-à-dire une forme qui était sans contrainte, où il faisait ce qu'il voulait. Il n'était pas tenu de faire des alexandrins, il n'était pas tenu de rimer. Il y a des trucs qui sont rimés, il y en a qui ne sont pas. Il y a des vers qui sont très courts, d'autres qui sont longs, etc. Il a fait absolument comme il voulait. Et c'était là, je crois qu'il s'est épanoui. D'ailleurs, ces fameux « Dog Sedlar », comme il les appelait, on en a recensé environ 1500, et on n'est pas sûr de l'exactitude du compte, n'est-ce pas? Et ça, il l'a fait toute sa vie, depuis le début jusqu'à la fin. Donc Dagerman était possédé par le journalisme en même temps que par la littérature, et il a beaucoup écrit, beaucoup publié. Donc voilà, ceci dit, pour vous, je ne vais pas continuer, je voudrais surtout vous dire, lisez Dagerman, parce que je crois qu'il en vaut vraiment la peine. N'ayez pas peur. D'ailleurs, Dagerman avait une idée, c'était que la peur est nécessaire à l'homme. Pourquoi ? Parce que ce n'est que l'homme, quand l'homme a peur, qu'il commence à se comporter de façon à peu près décente, à peu près digne et à peu près responsable. Oui, voilà. Contrairement à ceux qui nous disent toujours, n'ayez pas peur, n'ayez surtout pas peur. Dagerman a dit, faut pas peur d'avoir peur. Retenez ça. Et lisez, vous verrez peut-être, je pense, surtout dans ses écrits un peu journalistiques, il y en a un certain nombre qui existent en français. En particulier dans le numéro de la revue Plainchant, qui hélas n'est plus disponible sur le marché, mais vous pouvez le trouver dans les librairies, dans les bibliothèques, pardon, peut-être, et de toute façon, ou le faire venir par le prêt interbibliothèque. Donc voilà un petit peu le tableau que je peux vous brosser. À part ça, on m'a parfois interrogé sur les rapports de Dagerman avec la littérature prolétarienne. Alors, c'est un cas un peu particulier parce que Dagerman est né trop tard. Il est né une dizaine ou vingtaine d'années trop tard. Mais je suis persuadé que s'il était né plus tôt, il aurait été parmi ces grands écrivains prolétariens que je trouve à l'honneur de la Suède littéraire. C'est-à-dire des gens qui, partis de rien, hein, ont accédé à la littérature de niveau mondial. Et je dis mondial, il y a une preuve, c'est que deux d'entre eux ont obtenu le prix Nobel de littérature. Bon, Evin Jonsson et Harry Martinson. Il y en a deux autres qui l'auraient mérité, Ivar Lo-Johansson, qui aurait dû l'avoir, mais hélas, il s'était fait trop d'ennemis dans le milieu littéraire, disons suédois, en affirmant des convictions assez résolues pour obtenir ce prix. Et puis le quatrième, Wilhelm Moberg, est un cas assez à part. Wilhelm Moberg est issu d'une famille paysanne et de soldats de la milice suédoise. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ça, mais c'était encore une fois les profondeurs du peuple. Ce Moberg s'est mis à écrire avec beaucoup de peine. Moberg a tenu un registre de ses envois aux éditeurs et des retours. On le possède toujours. Donc on sait que tel jour, il a envoyé tel manuscrit à tel éditeur et que tel jour, il a reçu en retour. Eh bien, on a compté jusqu'à 27 envois et retours du même manuscrit pour un même livre. Refusé 27 fois. Donc. Eh bien, il a continué quand même. Et il a fini par percer, il a fini par écrire, il a même fini, tenez-vous bien, par être déclaré ennemi du Reich, parce qu'un de ses livres a eu le malheur de ne pas plaire à un petit copain d'en face. Il était nommé ennemi du Reich et ses livres ont été brûlés avec d'autres en place publique à Nuremberg et autres lieux. Et Moberg a été tellement fier de cela qu'il a dit « Eh bien, ça me servira de distinction jusqu'à la fin de mes jours. » Et non seulement il l'a dit, mais il a tenu parole. C'est-à-dire qu'il a refusé tous les prix littéraires jusqu'à la fin de sa vie. Il n'a pas obtenu, il n'a pas accepté. Il aurait, sans ça, je pense qu'il en aurait eu pas mal, mais il n'en a pas accepté un seul. Et pour être sûr de son fait, il s'est méfié de l'Académie suédoise. Il s'est dit, c'est quand même des gens qui ne sont pas toujours complètement cons. Eh bien, il s'est mis à en dire le plus de mal possible, à les traiter de vieux machins qui ne connaissaient rien à la littérature, de vieux croutons qui feraient mieux d'aller dormir, etc. Autrement dit, de se rendre complètement impossible, parce qu'après ça, s'il lui avait décerné le prix Nobel, vraiment, ils auraient eu belle allure. Voilà comment un écrivain un petit peu courageux se met à l'abri. Ça me fait penser à celui qui disait « il fallait pas le mériter », n'est-ce pas? Eh bien, lui, il a fait en sorte de ne pas l'obtenir. Donc, ce Moberg-là, c'est un monument, c'était d'ailleurs un colosse au point de vue physique. Et bon, là, je vais quand même vous dire que si je vous recommande quelque chose, c'est la lecture de « La saga des immigrants », parce que c'est un livre merveilleux. Je crois pas... C'est un gros livre. Vous pouvez voir, il y a deux gros volumes. Et je ne crois pas avoir connaissance de quelqu'un qui l'ait commencé et qui ne soit pas allé jusqu'à la fin. Et c'est passionnant de bout en bout. C'est l'histoire d'un... Et c'est en même temps très subtil, parce que c'est très bien composé. Croyez-en celui qui l'a traduit. Ça, on s'en aperçoit vite. Et c'est l'histoire d'un groupe de Suédois qui vit justement cette aventure de l'émigration, qui, à partir de 1850, quitte la Suède, et la quitte, mais alors, avec armes et bagages. C'était ce que j'appelle une vraie émigration, c'est-à-dire une émigration définitive. Ces paysans-là, ces gens-là, ils vendaient le peu qu'ils avaient. Quand ils avaient une ferme, ils vendaient à la ferme. S'ils avaient un cheval, ils vendaient le cheval. S'ils avaient une charrette, ils vendaient la charrette. Et ils partaient, et c'était définitif. Il n'y avait pas de retour possible. C'était ça passe ou ça casse. Alors parfois ça passait, parfois ça cassait. Il y en a qui ont échoué, parce qu'on parle toujours de la réussite des immigrants européens en Amérique, mais il y en a auxquels ça a coûté la vie, justement. Et ce livre, en multipliant les personnages, parce qu'il y a toute une douzaine, disons dizaine ou douzaine de personnages, vous montre à la fois les différents motifs de l'immigration et les différents sorts ou résultats de cette émigration, ceux qui réussissent et ceux qui échouent, parce qu'il y en a qui ont échoué. Donc c'est un livre vraiment merveilleux, très subtil, à la fois d'une grande ampleur, mais toujours passionnante, avec des subtilités telles que les graines de pommier d'Astrakhan que la famille emporte de Suède. C'est une poignée de graines qui va traverser l'Atlantique et qui vont planter dans la terre d'Amérique et qui va donner, à la fin du livre, ses premières pommes. Voilà, c'est très très bien construit, c'est très bien étudié, c'est magnifique. Ce livre-là, mon avis, à lui tout seul, il méritait le prix Nobel, mais l'auteur a fait ce qu'il fallait pour ne pas l'obtenir. Bon, et puis il y a eu d'autres écrivains comme Josef Sjögren, celui qui est peut-être le plus cher à mon cœur, parce que celui-là, c'est un homme, un vrai. C'était un homme parti de rien et sa famille était des pêcheurs de l'archipel. Lui-même a été marin, mais marin à fond de cale. Et il a réussi, malgré la tuberculose, car il était atteint de tuberculose qui faisait des ravages considérables en Suède à l'époque. C'était pas de la rigolade, je vous prie de croire. Les populations entières qui ont été détruites par la tuberculose. Et Oui, malgré les circonstances, la tuberculose, il a fait quelques œuvres remarquables. En particulier, alors vous avez ce que je considère son chef-d'œuvre, qui s'appelle Les Hommes de l'Émeraude. C'est un livre stupéfiant. Je ne le croyais pas moi-même quand je l'ai lu, que ce livre avait été écrit par quelqu'un qui avait quoi ? L'école primaire, l'équivalent de l'école primaire en France, à peine le certif, si vous voulez. Qu'il ait pu écrire ça, ce livre d'une telle subtilité, d'une telle profondeur, d'une telle beauté, d'une telle variété, parce qu'il y a en même temps des moments forts, des moments faibles, il y a en même temps des moments presque drôles, des moments tragiques, des moments de recueillement, des moments d'excitation. C'est l'histoire d'un cargo suédois qui va à sa perte, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, pardon. Et le pire, c'est qu'on sait dès le début, on se doute dès le début que ça va à sa perte. Et pourtant, je ne connais pas de livre plus optimiste que celui-là. Parce que c'est possédé par une foi en l'avenir. Ils sont tous là à dire « Ah oui, mais c'est l'enfer pour l'instant, mais ça va changer, vous allez voir, on va changer tout ça, on va créer une nouvelle société, on va changer le monde, on va changer les hommes, etc. » Ils sont tous optimistes, c'est pas croyable. Et tout ça, c'est profilé sur tout l'équipage. Alors vous avez tous les personnages, vous avez la grosse brute un petit peu, vous avez le semi-intellectuel, vous avez le fragile, vous avez le fort. Il y a deux personnages, celui de Tabouy, Stoker, c'est formidable. La force de l'un compense la faiblesse de l'autre. Et je peux dire que la faiblesse de l'un, c'est aussi la force de l'autre. Ça ne s'explique pas, c'est magnifique, ça se constate. Et vraiment, ce livre est d'une beauté, d'une simplicité. Pour moi, c'est l'illustration du fameux adage « Tout le grand art est de faire quelque chose de rien ». Vraiment, c'est fait avec trois bouts de ficelle et deux chandelles. Et ça montre ce qu'on peut faire, simplement, quand on est un homme. Et je peux vous dire que mon admiration pour Sjögren, c'est presque au-delà de la littérature, c'est de l'homme. Parce que là, on a un homme qui avait foi en ce qu'il appelait la solidarité. D'ailleurs, on l'a vite appelé le poète de la solidarité. Et c'était un homme qui ne pouvait pas penser du mal d'autrui. Ça, c'était impossible. À tel point que dans Les Hommes de l'Émeraude, il y a un personnage qui est assez déplaisant, qui est présenté comme égoïste et puis mauvais, quoi, disons. Eh bien, même ce personnage-là, Sjögren réussit à finalement nous le faire comprendre et le trouver sympathique. Ça, c'est aussi du grand art, je crois. Donc, voilà un petit peu une petite brochette. Il y a Folke Friedel aussi, un ouvrier du textile qui a beaucoup rué dans les brancards, qui a beaucoup critiqué un petit peu la littérature un peu ronronnante, ce qui a livré... J'ai pu traduire, faire paraître en français, Une semaine de péché. Ça n'est pas mal, c'est une semaine de révolte, un ouvrier qui se révolte. Mais ce n'est pas une petite révolte comme ça, à 4 sous. Non, c'est une révolte totale, complète, contre tout, contre le système. Et il a décidé qu'il allait refuser de travailler pendant une semaine. De péché, pourquoi ? Parce que l'homme doit travailler, n'est-ce pas ? Surtout dans un pays protestant, on ne badine pas avec les religions. Donc, il a décidé qu'il ne travaillerait pas et qu'il refuserait les prétextes de ne pas travailler. Il pourrait se faire porter pâle. Non, 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 c'est pas de ça. Il pourrait invoquer tel prétexte. Non, 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 il refuse. Et croyez-moi, c'est pas facile de refuser comme ça. Refuser, en quelque sorte, dans l'absolu, quand vous n'avez pas de prétexte. C'est difficile aussi, en particulier, quand vous avez une femme et des enfants, et qui vous disent « Pourquoi tu ne vas pas au boulot ? Et puis nous, qu'est-ce qu'on va devenir ?» C'est difficile de résister à la pression des camarades de travail qui disent « Ah, tu te crois malin, toi, parce que tu refuses de bosser avec nous. » Eh bien, oui, il va réussir. Mais au bout de la semaine, ouf, le lundi, il va pouvoir retourner au boulot, quand même. Donc, c'est quand même un livre assez étonnant que j'ai beaucoup aimé et que j'ai réussi à faire paraître en français. Voilà un petit peu cette littérature prolétarienne qui est d'une richesse, croyez-moi, j'espère sur parole, parce que je n'ai réussi à en faire paraître enfoncer qu'une petite partie de l'iceberg. Si le sujet vous intéresse, je peux vous dire que j'ai commis un livre où je raconte cette histoire en essayant de la faire la plus simple possible, la plus chronologique et claire possible. Ça s'appelle « La bêche et la plume ». Et c'est en vente ici. Toute publicité, excusez-moi, mise à part, mais on m'a dit que j'étais là pour ça. Donc, voilà. Et puis, il y a d'autres grands écrivains. Je voudrais en citer un ou deux autres parce que, au hasard de mon butinage traductorial, j'ai buté sur des livres magnifiques. Je vais citer par exemple La Drésine de Karlening Wittmark. N'est pas là, mais vous le trouverez facilement en librairie, chez Babel, c'est facile à trouver, parce que c'est magnifique. C'est un conte philosophique sur l'humanité, sur le devenir de l'humanité, et ça se présente comme le récit de la traversée de l'Atlantique Sud par un jésuite belge. Et oui, pourquoi il n'y aurait pas de jésuite en Belgique? Alors, une fois... Donc, un jésuite belge qui traverse l'Atlantique Sud à bord d'une drésine. Une drésine. Qu'est-ce que c'est que ce navire? Non, une drésine, ça va sur les rails. C'est un petit engin qui sert à se propulser sur les rails. Jadis, ça fonctionnait à pompe, avec l'huile de coude. Maintenant, c'est motorisé, électrisé, dieselisé, sans doute. Mais à l'époque, la guerre de 14, donc, vous voyez. Cette drésine, si on ajoute une voile, un gouvernail, etc., on peut se lancer sur les flots si on a le goût de l'aventure. Et puis pourquoi pas, puisqu'on s'intéresse à l'histoire de l'humanité, au problème du chaînon manquant, bah tiens, on va embarquer deux singes à bord, comme compagnons de voyage. Et vogue la galère, et c'est pas triste. En particulier, lors d'une escale à Sainte-Hélène, je vous dis pas, là, je me suis bien marré à traduire ça. Donc, c'est un livre magnifique, vraiment, porté par belle inspiration, c'est pas difficile à lire, c'est splendide. Et puis, une autre joie de traduction, c'est Long John Silver, de Björn Larsson, un livre que j'ai découvert, presque par hasard, je ne connaissais pas l'auteur. Les circonstances ont fait qu'on s'est rencontrés lors des Boréales de Normandie. J'ai connu l'homme. J'ai été assez estomaqué. Et je peux dire qu'au bout de 10 minutes, un quart d'heure, on savait qu'on deviendrait amis. Là, on était sur les mêmes longueurs d'onde. On s'est trouvés, on s'est rencontrés. On s'est peut-être perdu de vue, parfois, comme dans la chanson. Mais... on ne s'est jamais vraiment totalement perdu. Et à cette occasion, il m'a dit, ben, je t'enverrai mon prochain livre qui s'appelle Long John Silver, qui va paraître bientôt. J'ai reçu le livre et je peux vous dire qu'au bout de 50 pages, j'ai prié le ciel que je puisse un jour traduire ce livre. Bon sang. Là, j'étais vraiment subjugué, emballé. Et le ciel m'a écouté, merci bon Dieu, et j'ai pu traduire ce livre et le faire exister en français. Et depuis, j'ai traduit pas mal d'autres livres de Björn, tous différents, car Björn est incapable d'écrire deux fois le même livre. Je l'ai mis au défi, il n'a pas encore relevé. Et, circonstance aggravante, nous avons fini par traduire ensemble. Nous avons traduit ensemble un texte poétique qui s'appelle « Aniara » de Harry Martinson, j'avais promis que j'y reviendrai, qui est une épopée de l'espace, qui se passe dans un futur pas précisé, et qui décrit le sort d'une poignée d'êtres humains qui sont embarqués à bord d'une fusée qui va se perdre dans l'espace interstellaire. C'est une œuvre ahurissante, elle aussi, hors norme, poétique, mais pas, il n'y a pas de forme définie. Il y a 103 chants, mais tous ont une forme différente. Et comme c'est une œuvre d'anticipation, il y a un peu de science-fiction. Et il y a donc des choses qui n'existent pas encore. Et quand des choses n'existent pas encore, il faut leur donner des noms qui n'existent pas encore non plus. Alors pour les traducteurs, c'est pas tout à fait facile. On a déjà parfois du mal avec les mots qui existent, ceux qui n'existent pas. On n'est pas très gâté. Et donc, je n'aurais jamais entrepris la traduction de ce livre si Björn ne m'avait pas suggéré qu'on s'y attaque ensemble. Et ça a été un travail passionnant. Une des entreprises les plus enrichissantes, je dois dire, que j'ai fait au cours de toutes ces années de traduction. Bon, voilà, je vais cesser de vous accabler de noms, de titres et de superlatifs. Simplement peut-être vous donner la parole pour poser des questions auxquelles il sera répondu du mieux possible par l'intéressé lui-même. Ou ben poser des questions à d'autres personnes, en particulier celles qui m'ont demandé à venir vous parler ce soir, et qui répondront sans doute aussi, simplement pour savoir pourquoi ils m'ont fait venir, par exemple. Alors, la parole est libre, comme on dit en suédois. Oui, monsieur.
On peut avoir des exemples des mots futuristes difficiles à traduire et pourquoi éviter, pour nous faire toucher les difficultés et goûter.
Des exemples, bon, oui, il y a en particulier, bon, là c'est pas très probant, mais imaginez-vous par exemple que Martinson a inventé une machine qui va retransmettre des choses, des spectacles, une sorte de télévision, si vous voulez. Mais attention, une machine qui est sensible et qui pleure de ce qu'elle doit retransmettre. Et qui va tellement pleurer qu'elle va finir par en mourir. Cette machine, d'ailleurs, en plus, s'invente en partie elle-même. Bon, vous comprenez qu'on est là un petit peu dans la science-fiction, mais en même temps dans la poésie, dans le non-humain, etc. Le livre abonde dans choses comme ça, des machines ou des réalités bizarres, des concepts. Il invente des concepts qui n'ont pas cours, qui n'ont pas encore cours. Il invente de l'argot futuriste, l'argot qui n'existe pas encore. Ben, voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait, nous? Alors on essaye de clopiner derrière, on a, pour l'argot en particulier, on a décidé de garder ces termes-là en les francisant, point de vue de l'aspect et de la prononciation possible, si vous voulez. Hein? On gardait pratiquement le mot suédois en le francisant. Puisqu'il n'existe pas en suédois, il peut aussi bien ne pas exister en français. Ben voilà, hein? c'est de la légitime défense. Donc voilà le genre de problème auquel on a eu affaire. En plus du reste, pour retranscrire le langage poétique, tout ça. Mais encore une fois, à deux, c'est plus facile. À deux, on cède, à deux, on se donne confiance. Et je vais même dire, qui va peut-être vous étonner, que Björn, en tant que Suédois, les Suédois connaissant le français, et il est d'ailleurs prof de français, mais enfin, c'est Björn qui m'a donné le courage de certaines solutions. En ce sens que, dans nos échanges, qui ont été nombreux, fréquents, etc., il lui est arrivé souvent de me dire « Mais pourquoi est-ce qu'on dirait pas ça ?» Alors là, je me torturais les ménages, parce qu'on avait un peu convenu que, comme j'étais le francophone quand même, c'était moi qui avais un petit peu le dernier mot. Bon, c'est pas l'imposer, mais si vraiment je refusais, il n'allait pas contre moi. Eh bien, c'est lui qui, à force de me dire « Mais pourquoi est-ce qu'on dirait pas ça ?» Parfois, je trouvais une réponse à lui objecter, ben parce que ceci, parce que telle raison, grammaticale, linguistique ou autre. Mais souvent, j'étais obligé de dire « Ben, je sais pas, je peux pas te dire qu'est-ce que... Ben alors, pourquoi on le dirait pas ?» Et on l'a dit. Donc, il m'a donné le courage, si vous voulez, de solutions linguistiques françaises que j'aurais pas osé accepter moi-même ou proposer moi-même. Ça, si c'est pas un paradoxe aussi, hein, je veux bien être pendu, enfin pas haut et court, mais donc voilà le genre de, vous imaginez un peu l'échange que ça représente, hein, et l'enrichissement que ça représentait pour moi. Ça, vraiment, s'il y a une chose que je regrette pas, c'est ça. même si on n'est pas sûr. Et si vous regardez sur le livre, vous verrez que nous avons mis, non pas qu'il était, l'œuvre était traduite en français, mais transposée en français. Nous avons essayé d'éviter le mot traduit, parce qu'on n'est pas sûr de nous, on n'est pas sûr de tout. Cette œuvre a fait l'objet d'exégèses qu'on a lues, mais tout le monde n'est pas d'accord sur les interprétations, sur la raison pour laquelle il a inventé telle chose ou donné tel nom. Et donc, nous non plus, on n'est pas sûr. Alors, on espère que peut-être quelqu'un fera mieux un jour. On aurait peut-être dû s'entourer aussi d'un scientifique pour nous aider, mais ça aurait beaucoup compliqué le processus, parce que là, on était entre amis qui se connaissaient, qui se faisaient confiance, et c'était peut-être difficile d'introduire un scientifique qui aurait fait valoir des raisons scientifiques qu'on aurait du mal à accepter du point de vue linguistique et artistique, si vous voyez ce que je veux dire, j'espère. Donc, voilà, mais ça, c'était un travail formidable, merveilleux, parce que il y a de bons moments dans la traduction, même s'il y a des foutus moments aussi. Il y a tous les moments où vous n'êtes pas à la hauteur, et vous le savez, et vous en êtes tristement conscient. Parce qu'il n'y a personne qui est plus conscient de ses limites que le traducteur, croyez-moi.
Pour Philippe, pour revenir sur certains livres, est-ce que tu peux dire le poids qu'ont eu des livres comme La Fabrique de violence ou les œuvres de Lo Johansson dans le changement aussi des conditions sociales pour La Fabrique de violence, de l'enfermement, et pour Lo Johansson, de la condition des statars, par exemple?
Oui, bon, on me demande de parler un petit peu des effets réels dans la vie de tous les jours de certaines œuvres que j'ai traduites. Bon, on me cite deux, Lo Johansson, déjà cité. Eh bien, c'est lui qui a réussi à faire abolir le statut des statars. C'est en l'illustrant littérairement qu'il a fait prendre au pays conscience de ce qu'il y avait d'inadmissible d'avoir des serfs au XXe siècle en Suède, alors même que la Suède n'avait pas connu le servage au Moyen-Âge. Hein? Mais il se retrouvait avec des serfs au XXe siècle, un pays qui était en train de devenir le fameux foyer du peuple, hein, des sociodémocrates, la démocratie, etc. Bon. Eh bien, il a fait abolir ça. Il a d'ailleurs eu la modestie de dire « Non, c'est pour moi qui ai fait ça, c'est grâce à l'évolution, c'était plus rentable, etc. » Mais en fait, quand même, cette œuvre a eu une portée certaine. D'autre part, il a fait une autre campagne sur les personnes âgées. Et il a réussi à faire changer la politique entre les asiles de vieux, où on hébergeait donc les personnes, en le faire le transformer en politique de soins à domicile. Et alors c'est marrant parce que en suédois, c'est très facile au moyen linguistique, simplement. Vous changez l'ordre des deux termes et vous arrivez, même linguistiquement, à faire changer la politique. Donc vous voyez que la littérature peut quelque chose. Un autre exemple que Gabriel me demande d'illustrer un tout petit peu, c'est La Fabrique de violence de Yann Guillou. Yann Guillou, comme son nom l'indique, est un descendant de Français. Pas de Louis Guillou, mais descendant de Français et d'une mère norvégienne, mais fixé en Suède, devenu écrivain suédois, et non des moindres, une des personnalités publiques les plus en vue et les plus remuantes, je dois dire, de la vie politique suédoise. Eh bien, il a publié un livre qui s'appelle, en suédois, à l'origine, s'appelait Le Mal, que, pour des raisons d'opportunité, malgré tout, j'ai amené à changer en La Fabrique de violence, parce que Yann m'a dit que, quand je lui ai dit que je pouvais pas utiliser ce titre qui était déjà utilisé beaucoup en France et qui faisait penser à un essai et non pas à un roman, il m'a dit « Oh, mais j'ai un titre, j'avais pensé intituler ça La Fabrique de violence ». Je dis « Magnifique, c'est ce qu'il me faut ». Donc j'ai repris un texte original et abandonné du livre. J'ai pas tout trahi. Et donc ce livre raconte sa scolarité dans une boîte privée suédoise. Et croyez-moi, à l'époque, c'était chose rare, rarissime même. Maintenant, c'est devenu à la mode, très à la mode. Mais à l'époque, c'était chose rare. Et cet internat s'est révélé un enfer de brimades. Et de vraiment un enfer. C'est très détaillé. Et la conséquence, ben, c'est que quand ce livre est paru, il y a eu enquête sur la... les pouvoirs publics ont mené enquête sur l'école et elle a été fermée. Donc, vous voyez que la littérature peut quelque chose. Zola nous l'avait d'ailleurs prouvé abondamment, lui. Eh bien, vous voyez que c'est toujours le cas, même à l'heure actuelle, quand on veut bien s'en donner la peine. J'ajoute, tenez, Moubert. Je vous ai parlé de Moubert, je vous ai parlé de son refus du prix Nobel. Eh bien, pendant que Moubert écrivait la saga des immigrants, il a eu connaissance d'un ou deux scandales, d'un ou deux affaires judiciaires bizarres. Bizarres. C'était louche. Curieusement, d'ailleurs, on retrouvait presque toujours les mêmes acteurs derrière ça. Alors, il a mené sa petite enquête lui-même, tout seul, comme un grand. Il a soutiré des documents de justice au secret, des documents classés secrets. Il les a subtilisés, il les a photocopiés, il a convoqué une conférence de presse en disant « Voilà, je m'accuse, je viens de commettre un crime grave, je rends public un document secret, en vertu d'une décision secrète elle-même, c'est donc secret au carré, excusez. » Il a mis les rieurs de son côté, et total, au bout du compte, il a fait démissionner le ministre de la Justice, un juge et un commissaire de police. Rien que ça. Alors qu'il était en train d'écrire le grand chef-d'œuvre de sa carrière, l'œuvre la plus ambitieuse, la plus grande à tous égards de sa carrière. Qu'on ne nous parle pas des nécessités de l'œuvre, que ça empêche de se mêler de choses qu'il ne regardait pas, parce qu'il y en a beaucoup qui lui ont dit « Hé, de quoi tu te mêles, toi, écris tes livres ?» Bien sûr. Ben oui, mais voilà. Donc, vous voyez qu'il y a des rapports entre la littérature et la vie même sociale ou politique, du moins en Suède. Je ne me garantis pas en France. Il y en a eu, c'est vrai, mais pas beaucoup et pas toujours à bon escient, et surtout pas avec les mêmes effets, parce que, je ne sais pas pourquoi, mais là-haut, on prend les choses au sérieux, y compris la littérature. Et si on prend la chose au sérieux, on la mène à bout. Hein? On s'en occupe. Si on enquête, on ne fait pas semblant d'enquêter. On va voir ce que ça couvre, ce que ça masque. Hein? Et donc, voilà pourquoi une des nombreuses raisons que j'ai eues d'accepter ce pays comme ma seconde patrie. Alors, il y a des gens qui me disent « Oui, t'es plus suédois que les Suédois. » Bon, tant pis. Mais j'avoue que c'est d'ailleurs étonnant, je me sens français en Suède et suédois, c'est comme ça. Quand on a la chance d'avoir deux patries, c'est pas vraiment ma patrie, mais enfin deux pays, et surtout deux cultures. Ça, alors là, oui. Là, je considère que j'ai une chance formidable et je souhaite à tout le monde voir ça. Deux de mes petits-enfants ont quasiment une triple culture parce qu'ils sont d'une mère française, d'un père espagnol et ils ont vécu en Italie pas mal. Et l'aîné, il passe du français à l'italien, à l'espagnol comme ça. Et à 2 ans et demi, ce gosse auquel je montrais un livre, un album pour lui faire dire les noms des animaux. Et je lui montre l'éléphant, le lion, etc. Puis je lui montre la chèvre. Alors, je vois le gamin qui cogite, qui réfléchit, etc. Puis qui tout d'un coup s'écrit « cabra » et puis qui ajoute « en espagnol ». Un môme de 2 ans et demi qui vous dit qu'il y a des langues. Il y a des langues différentes et puis qui sait que ça existe et que ça porte pas le même nom dans les trois langues. Ça vraiment, moi, c'est un des bons souvenirs de ma vie et de ce que j'appelle le multiculturalisme au bon sens du terme. Mais je crois que d'avoir plusieurs langues et donc plusieurs cultures à sa disposition, c'est vraiment une chance, l'une des plus grandes chances qu'on puisse souhaiter à un être humain. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si vous en avez assez de m'entendre, parce que
Moi-même, je commence à en avoir assez. Donc, mais s'il y a encore des curiosités, je peux les satisfaire. Sinon, je vous suggérerais de lire le plus possible. Et je crois que, j'espère que vous ne serez pas déçus, parce que vraiment, il y a de grandes et belles choses dans cette littérature. Pas très connue. Maintenant, hélas, submergée par le roman policier. Alors, Dieu sait qu'il y en a des bons, je suis d'accord. Il y a les Chevals voleux en particulier, qui ne sont pas en attarde. Il y a les Mankell, qui a eu beaucoup de mal à s'implanter en France. Je le sais, parce que j'ai essayé et j'ai échoué lamentablement. Mais qui maintenant est une gloire bien établie. Donc, il y en a quelques autres. Staffan Westerlund en particulier, qui écrivait des polars écologiques, quasiment. Oui, ça existe, si on veut bien en écrire. Donc, il y a de belles choses, et puis il y en a d'autres qui sont pas terribles. Camilla Läckberg, vous pouvez laisser tomber, hein, c'est à peu près nul, mais ça se vend très bien, donc vous n'irez pas par ailleurs. Sa fortune est faite. Donc, quant au fameux Millennium, vous pouvez en penser ce que vous voulez, c'est... J'ai une admiration très précise, c'est pour l'action de Stieg Larsson. Stieg Larsson, pas Björn. Hein. Il y a beaucoup de Larsson en Suède, c'est Dupont, Duro. Donc Stieg Larsson a eu le courage de lutter contre les mouvements d'extrême droite en Suède, et même néo-nazis, il y en a. Il redresse la tête, c'est certain, à tel point que Björn, lui, l'autre Larsson, m'a dit qu'il allait voter cette année pour la première fois parce que le péril néo-nazi est réel en Suède. Donc, ça existe. Hein. Et, Stieg Larsson a vraiment couru des risques véritables. Il était menacé de mort hein, pour une campagne. Il a animé à lui tout seul un périodique qui luttait contre, qui essayait de révéler les tendances néo-nazies plus ou moins masquées dans le pays. Donc, il a eu un courage réel, à tel point qu'il a refusé de se marier et d'épouser sa compagne pour la protéger. Il a fait une erreur, c'est que, comme il est mort, eh bien, sa compagne, qui n'est pas mariée, est passée à côté des droits d'auteur, lesquels ont été récupérés par son père et son frère, lesquels l'avaient, le père en particulier, pratiquement renié. Mais il n'a pas renié l'héritage. Oh non, ça, non, pas renié. Non, on peut pas tout renier, quand même, hein. Il s'est rappelé qu'il avait un fils à ce moment-là. Donc, triste histoire, aux tristes conséquences. À part ça, il n'y a rien de nouveau dans ce Millennium quand on a lu ce qu'a publié Per Wahlöö tout seul. Entre 60 et 63, Per Wahlöö a publié trois romans, l'un qui s'appelle Le Camion, qui décrit les survivances du fascisme. C'est en Espagne, mais c'est facile à transposer. Le deuxième, qui s'appelle Le meurtre au 31e étage, qui dénonce la concentration de la presse aux mains d'une poignée de personnes. Et le troisième, qui s'appelle L'Arche d'acier, qui dénonce les diverses façons de mise en condition de l'opinion. Bon, c'est les trois thèmes essentiels de Millennium, donc il n'y a rien de nouveau, sauf le fait qu'il n'y avait pas les ordinateurs à l'époque, bien sûr, parce que c'était en 1960. J'ai dit 60, c'est-à-dire il y a 50 ans. Hein? Donc, c'est pas du nouveau. Et bon, j'ai rien contre Millennium, mis à part que c'est traduit de façon infecte, ou plutôt publié de façon infecte, sans relecture et sans correction. Et c'est vraiment, ça a été une entreprise bassement commerciale. Ça ne méritait pas ça, ça méritait mieux. Mais c'est là, ça a été pareil dans les autres pays du monde. Je m'en suis entretenu avec des traducteurs d'autres nationalités qui m'ont dit que c'était pareil chez eux. C'était la traduction la plus dégueulasse qu'ils avaient vue depuis bien longtemps. Mais ça fait les fortunes, donc c'est l'essentiel. Voilà. Alors, est-ce qu'on arrête là ? Bon, on peut toujours faire quelques petites conversations privées. Si vous n'osez pas poser vos questions en public, si elles sont trop indécentes, trop personnelles.
merci à toi, mon père.
Oui, ben, d'accord. Merci à vous de m'avoir écouté avec patience pendant tout ce temps, parce que vous avez compris que quand je suis lancé, il est difficile de m'arrêter.
C'était Philippe Bouquet à La Chapelle, dans le cadre d'un cycle sur la littérature prolétarienne.
Radio Livre dormi.